Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode du Popcorn de l'Infini. Je retrouve toujours David à mes côtés. Salut David, ça va bien?
Oui, ça va super bien.
Aujourd'hui, on rentre un peu dans ta tasse de thé, hein? Oui, l'univers de Spider-Man que tu connais sur le bout des doigts. J'ai bien hâte de t'entendre sur cette version-là parce qu'aujourd'hui, on parle de The Amazing Spider-Man 2, qui est canon dans le MCU en raison des trois Spider-Man qui vont se retrouver dans No Way Home.
C'est No Way Home.
Et puis, même je dirais un peu plus, là, toute la trame qui concerne Gwen Stacy aussi, qui a une certaine importance dans le MCU. Là, on va reparler tantôt. Mais c'est ce qui l'a rendu canon. Et c'est la fin de cette... ce qui s'annonçait être une... C'est quoi? Tétralogie, c'est-tu 4, ça?
Il était supposé en avoir combien?
Il était supposé en avoir 4.
Ah, quand même.
Au moins 3.
Tétralogie de bord, ouais.
Puis on s'est arrêté à 2, finalement.
Ouais.
Parce que le film a été, à l'époque, le pire succès Spider-Man. Il a fait de l'argent, là, le film, quand même. Mais c'était le film de Spider-Man qui avait fait le moins d'argent de l'histoire. C'est encore le cas, d'ailleurs, parce qu'évidemment, ceux du MCU ont fait la palette. Mais c'est ça, on a fait fausse route. Ben, tu sais, je me souviens, je crois, quand que je te parlais de Amazing Spider-Man 1, que je te disais que je gardais pas de très bons souvenirs du 2. Honnêtement, je l'ai plus apprécié que ce que je pensais, mais ça reste quand même un film avec des grosses lacunes.
Ouais, moi aussi, j'ai eu des bonnes petites surprises en écoutant le film. Là, je m'attendais à payer vraiment, puis j'ai quand même eu du fun. C'est sûr que j'aime beaucoup Spider-Man, fait que ça l'influence un peu là-dessus. Mais pour vrai... pas mal moins pire que je me rappelais.
Ouais, c'est ça, moi aussi. Tu sais, je pense quand même on est tombé dans le panneau de Spider-Man 3, c'est-à-dire de vouloir trop en faire. Là, on dirait le premier, tu sais, on avait refait cette origin story-là qui est assez similaire à celle de Sam Raimi, la trilogie de Sam Raimi, mais qui avait quand même un nouveau vilain. Bref, là, c'était Gwen qui est un peu plus centrale. Ici, c'est ça, on essaie de construire l'espèce de Sinister Six qui serait en théorie le troisième film.
Ouais.
Le Sinister Six qui regroupe quel vilain?
Écoute, ça change tellement au fil des années que je pourrais pas te dire c'est lesquels, là, mais originellement, honnêtement, je sais pas.
Moi, je sais que je vais y aller. De base, je pensais te faire une petite passe à sa palette.
Non, mais pour vrai, c'est parce que ça change tellement.
Ouais, c'est ça.
J'ai tellement connu d'éditions des Sinister Six que je m'en
rappelle. Ouais, c'est ça. Dans le fond, en tout cas, celle qu'on veut nous montrer ici, c'est le Gobelin Vert, c'est Electro, c'est le Rhino. Donc, qui est montré un peu dans ce film-là, c'est Dr. Octopus. Puis ensuite, on a Vulture et le dernier, c'est Kraven, je crois, ou Venom. Là, ça aussi, c'est pas trop clair parce qu'en fait, il y a une référence en quelque part à Kraven, mais je pense qu'on s'enlignait peut-être plus vers Venom, là, qu'on avait déjà vu dans le passé. Mais bon, finalement, on verra rien de tout ça. Ou en fait, on va avoir une petite partie là, dans No Way Home où là, il y aura Dr. Octopus. Puis en tout cas, c'est ça, il y en aura un petit peu plus. De quoi ça parle, ce film-là? On se parlait hors d'onde, puis j'avais de la misère à le résumer, ce qui n'est jamais une bonne chose. Là. Habituellement, un film de super-héros, ça se veut assez simple. Ici, on dirait... je vais répéter ce que j'ai dit hors d'onde. On dirait que tout le monde a une quest, sauf Peter Parker. c'est-à-dire, on les retrouve, je ne sais plus combien de temps, je pense 2 ans après les événements du premier. Le film sort 2 ans après, mais en tout cas, on est à peu près 2 ans après. Peter et Gwen se séparent quand même assez tôt dans le film. Et puis, tout au long, tu sais, la seule quest qu'il y a, c'est essentiellement d'essayer de... Sans dire de reconquérir Gwen. Il la stalk un petit peu. Puis, tu sais, on comprend que c'est une séparation qui n'est pas de gaieté de cœur d'un bord comme de l'autre. C'est juste une relation impossible. Peter vit avec... des remords d'avoir pas sauvé le père de Gwen aussi. On le voit d'ailleurs, son père, à quelques reprises comme fantôme. C'est ça. Gwen, elle, décide que ce soir, elle fera pas sa vie. Elle va pas attendre que Peter se réveille. Fait qu'elle part pour Oxford, ou en tout cas, elle veut partir pour Oxford pour aller étudier les sciences. Puis, en parallèle, ben, il y a Harry Osborn, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, qui revient dans le décor parce que Norman Osborn décède également. Et puis, de fil en aiguille, ben, il reprend un peu l'empire de son père et puis et se rend compte qu'il y a la même maladie que son père. En tout cas, c'est une maladie, hein, c'est pas une transformation.
Ouais, ouais, c'est une maladie génétique, là, une maladie rare.
Donc, puis il est en train de se transformer en on sait pas trop quoi. Puis lui, ben, il essaie de se soigner, puis une des pistes de solution qu'il a trouvé, c'est d'avoir le sang de Spider-Man, parce que les araignées sur lesquelles travaillait son père et le père de Peter Parker, ben, apparemment, c'était pour faire justement pour ses capacités de régénérescence, là, de guérison. Là. Donc, il essaye à tout prix d'avoir le sang de Spider-Man. Est-ce que Peter Parker va vouloir y donner? Ben, on ne sait pas. Et puis, en parallèle, encore une fois, ben, il y a un nouveau vilain. Première fois qu'on voit ce vilain-là dans l'univers des films Spider-Man. Donc, Electro, ou Max Dillon, je crois, je me
oui,
souviens plus.
Bien ça.
Donc, qui est joué par Jamie Foxx, qui est un employé de Oscorp, et qui un employé qu'on comprend aussi qui travaille dans l'électricité, là, quelque chose comme ça. C'est pas trop clair, là, il y a un petit sac banane, puis il a l'air un peu nerd, mais en tout cas, il répare des fils. Puis, ben, il, à un moment donné, il s'électrocute, puis il tombe dans un espèce de réservoir avec des anguilles.
Génétiquement,
ça, j'ai bien hâte de voir si c'est canon un peu.
Non, non. Je vais te le dire tout de suite, mais non, le tout à propos d'Electro est vraiment pas pareil.
Parce que je me disais, c'est tellement con que c'est sûr que c'est parce que c'est un vilain des années 60 puis que c'est un
absolument
peu plus
naïf. Pas. Ah, bon. Absolument pas. Ça n'a aucun rapport avec... ça vient de nulle part.
Ah ben, je l'aime un peu moins tout d'un coup. Mais bref, lui va se transformer en Electro. Il va finir par se joindre à Harry qui se transforme peu à peu en Gobelin Vert aussi. Fait que là, on a comme deux antagonistes comme ça. Et voilà, on les suit donc à travers les quelques mois. Je pense que ça se passe sur 7 mois. Donc, on les suit... juste avant le départ de Gwen. C'est Mark Webb qui revient à la réalisation. Il a discrédité le film parce que le studio a fait des changements qu'il n'approuvait pas vraiment. Ce qui explique peut-être en partie pourquoi le film, sans dire qu'il est brouillon, mais qui est très confus, ou en tout cas qui est très... superficiel, en surface. J'ai pas l'impression, sauf peut-être Peter, là, parce que oui, Mark Webb, c'est lui qui avait fait 500 Days of Summer. Je pense qu'il aime beaucoup faire des comédies d'ado, ou en tout cas des coming of age. Ce qu'on avait senti dans le premier Spider-Man, ici aussi, on le sent, oui, un coming of age un peu plus mature, mais l'aspect émotionnel, relationnel est quand même assez présent, plus même que je dirais que dans la trilogie de Sam Raimi. Je ne dis pas qu'elle est mieux faite, mais elle est plus présente. Ouais. Puis, il y a quand même, c'est ça, certaines améliorations dans ce deuxième volet-là. Mais encore une fois, on est victime du syndrome de Spider-Man 3 et d'essayer peut-être d'en faire un petit peu trop. La plupart du cast originel revient. Andrew Garfield, Emma Stone en rôle de Gwen. Il y a Dane DeHaan qui va jouer donc Harry Osborn qui fait son apparition. Je vais en reparler tantôt de cet acteur-là et du personnage en tant que tel. Il y a Colm Feore, il n'est pas québécois, mais il est canadien. Là. C'est le policier anglophone dans Bon Cop, Bad Cop qui joue l'espèce de chef de Oscorp, chef du board de Oscorp, ouais. Là, quelque chose de même. Felicity Jones qui joue Felicia. Felicity Jones qui à l'époque était peut-être pas tant connu, là, mais en fait, non. Son rôle est assez minime, là, mais cette année-là, je crois, en 2014, elle a été nommée pour un Oscar aussi. Elle a quand même une grosse carrière, mais elle joue un tout petit rôle ici, tout comme Paul Giamatti, qui, on comprend, va devenir Rhino à un certain moment. Puis Sally Field également, là, qui revient. Il n'y a pas une tonne de nouveaux personnages donc qui reviennent, ou de nouveaux acteurs là, qui reviennent. Il y a pas mal juste Jamie Foxx là, dans un rôle d'envergure. C'est le même team de scénaristes aussi, là, même s'il y a beaucoup de scénaristes, là, mais Alex Kurtzman et Roberto Orci. Et puis, c'est ça. C'est un film qui... qui aurait peut-être, selon moi, pu justifier un 3. Là. Je pense pas que ça a été un flop monumental. Puis on laisse beaucoup de... on ouvre beaucoup d'horizons pour finalement rien exploiter puis faire comme si ça n'existait plus. Là, on est 15 ans après. Là, ben 12
on
ans
dirait
après.
Qu'on aurait pu build up un 3 quand même assez intéressant malgré tout. Là,
ouais.
Mais qu'on n'a juste pas fait...
Non, ben je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais c'est ça, ça reste un film un peu... oublié et oubliable aussi. On l'avait déjà vu, toi et moi, puis on n'en garde sûrement pas beaucoup de souvenirs, à part une appréciation à peu près générale.
Ouais, ce que je retiens encore une fois, c'est le costume. Ouais. c'est mon préféré.
Mais ils l'ont changé par rapport au premier, parce que ça a l'air que les gens chialaient que c'est justement les yeux n'étaient pas assez gros. En tout cas,
ben c'est
pas
ça, ben, il n'était pas blanc non plus, les yeux. Là.
C'est vrai.
Il était comme un peu jaunâtre. Puis justement, non, c'est un de mes costumes, c'est mon costume favori. Dans tous les films, dans tous les live action de Spider-Man, je crois qu'on n'a pas atteint ça encore, mais je crois qu'avec Brand New Day, ça pourrait changer, parce que là, on enregistre avant Brand New Day, ça va sortir après Brand New Day, mais je pense que ça pourrait très bien changer.
Ouais, ben, j'ai vu quelques costumes justement qui sont sortis, d'ailleurs, ils en ont sorti un dans le jeu, Marvel Spider-Man 2, en l'honneur de Brand New Day, elle a l'air assez intéressant, oui. J'ai hâte qu'on en parle de ce Brand New Day-là, ça va être dans 10 ans, là, sûrement, à la vitesse où on avance dans le podcast. Mais oui, c'est ça. Donc, écoutez, on va aller en pause de publicitaire, puis au retour, ben, on va s'intéresser un peu à ce qui est comic accurate ou pas dans ce cas-ci. Et puis, on va vous donner justement nos appréciations un peu plus détaillées du film. Restez là, vous êtes toujours au Popcorn de l'Infini sur les ondes de CFAQ 88.3. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. Aujourd'hui, on s'intéresse au film The Amazing Spider-Man 2. David, donc tu nous as dit que tout ce qui concerne Electro n'est pas très comic accurate, mais oui. est-ce que d'entrée de jeu, est-ce qu'on se base sur un comic en particulier pour cette histoire-là? Ou pas
pour Electro?
Ben, pour le film, pour cette histoire-là.
Ben oui, on se base surtout sur Tonight Gwen Stacy Died, là. À part ça, mettons, si on prend tout l'arc d'Electro, mettons, non, on se base pas mal sur rien. Le personnage Electro existe dans les comics, là, c'est sûr. C'est un des grands vilains de Spider-Man qui revient quand même assez souvent.
Ouais.
Max Dillon, dans les comics, ça va être... il apparaît dans le 9e numéro là, d'Amazing Spider-Man.
J'ai lu, étonnamment. Je l'ai chez moi.
Fait que tu sais que dans celui-là, ben, Max, c'est un réparateur de lignes électriques qui gagne ses pouvoirs en se faisant frapper par la foudre pendant sa réparation. Mais là, alors que dans le film, ben là, c'est un ingénieur électricien, puis il est surtout un peu plus pathétique, mais dans les comics, ça va être vraiment comme il va avoir son côté criminel là, sûr de lui, pragmatique là, mais
je trouve ça bizarre ce côté, ben pas bizarre. Ben, je vais dire de même, là, je trouve ça bizarre ce côté pathétique-là qu'on a mis, mais c'est clairement juste pour y donner une motivation de vouloir être contre l'univers, on dirait. Là.
Ouais.
Parce que, à part ça, en tout cas, il n'y a pas de motivation ou tant que ça. C'est un personnage un peu flat. Là. On en reparlera tantôt. Là, mais...
Puis, tu peux pas. Le but de me donner une motivation, c'est de pouvoir te mettre à sa place, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui s'est mis à sa place, malheureusement, parce qu'il servirait son Edison là, à propos de Spider-Man aussi. T'sais. C'est comme.
Il trippe dessus, puis après, c'est comme « Non!
» Ouais, c'est comme « Oh non, il m'a trahi. » Tu vois qu'il y a des problèmes, Max Dillon, dans le film, puis ben... En tout cas, bon. Mais c'est ça. Donc, dans les comics, ça va être vraiment plus... Il va avoir plus un côté criminel, puis vraiment... Il va fabriquer aussi son propre costume, là, avec son costume jaune et vert, avec des éclairs, de là, le petit casque avec une genre d'étoile. Alors que, ben dans le film, il va avoir un look bleu qui vient pas de nulle part. Ce look bleu-là, il vient de la version Ultimate du personnage qui avait justement cette électricité bleue. Donc, on a pris inspiration d'un peu de son look du côté Ultimate, mais au niveau de son histoire, là, ça vient d'absolument nulle part. Puis, ben, c'est ça. Pour Harry Osborn, il y a beaucoup aussi d'incohérences face au comic. Bon, la maladie, c'est une invention du film.
Okay. Quand même une grosse invention. Là.
Quand même une grosse invention, oui.
Déjà, quand tu sais, je sais pas s'il y a des storylines dans Spider-Man où Norman n'est pas le gobelin vert, puis c'est seulement
oui,
Harry.
Oui, il y en a. Ah, oui, okay. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Là. je vais en parler un petit peu plus. Mais dans le fond, Harry, dans les comics, va devenir le bouffon vert là, après la mort de Norman Osborn, qui s'est passé comme dans le Spider-Man 1 là, de voyons. Tobey Maguire, qui ouais. va s'impaler lui-même avec son glider. Donc, il va devenir le deuxième bouffon vert, puis il va être poussé par ben, le deuil de son père, la drogue, puis la découverte de l'identité de Peter. Là. Mais dans le film, s'injecter un venin d'araignée, ça vient un peu de nulle part. Ça aussi, ouais. là, c'est ça, pas rapport. On essaie d'un peu de mélanger les histoires du background du père qu'on essaie d'insérer dans le film, qui vient aussi, lui, de nulle part.
Fait que, je comprends pas trop aussi la ouais, capacité de... Tu sais, me semble, les araignées, si je pense à une de leurs capacités, c'est pas se guérir. Il me semble, ben, tu sais, je sais pas, je connais pas bien...
Ça a toujours été... Je connais pas assez les araignées pour le dire, mais ça a toujours été un pouvoir de Spider-Man de se toujours régénérer, mais tu sais, pas comme...
Ça, on en a jamais parlé dans aucun des films jusqu'à présent. Non. T'sais, jamais il a fait comme, ah oui, tu sais, je guéris vite. Tu sais, Wolverine, mettons, on sait que c'est un de ses traits et tout ça, mais Spider-Man, on n'a jamais parlé de ça.
Ben, c'est,
on
comprend c'est, qu'il c'est est pas, fort. C'est pas la même vitesse non plus, mettons.
Ouais.
Tu sais, Spider-Man, sa guérison, c'est lente. Là. Il peut se ramasser à l'hôpital puis avoir mal pendant des semaines, mais tu sais, il va guérir plus vite qu'un humain okay. régulier. Là. Mais, tu sais, il va pas survivre ce que Wolverine survit, par exemple.
Non,
c'est pas instantané comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on en a pas parlé. Il y a une certaine auto-guérison attribuée aux araignées dans les comics puis dans les autres films aussi. À un moment donné, okay. il se fait frapper 25 fois par Sandman.
Ouais.
On comprend qu'il est un peu plus fort. Que... Il est capable d'en prendre un peu plus que.
En même temps, tous les super-héros sont, on dirait qu'ils sont capables.
Ouais, non, c'est ça. Mais bref, c'est comme Kakuette, sa capacité, mais tu sais. La raison pourquoi il veut le...
Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais personne bizarre. Qui a pensé à utiliser son sang pour être capable de maintenant guérir de maladies.
Puis là, on comprend aussi que le père de Peter qui a injecté son ADN dans les araignées, fait que c'est pour ça que Peter, lui, est devenu Spider-Man puis que Harry, lui, est devenu le gobelin. Bon, ça vient encore de nulle part. On essaie juste de relier les deux timelines ensemble. Puis vraiment, là, ça me fatigue à chaque fois que je vois cette storyline-là, chaque fois que ça passe au père de Peter, comme j'écoute pas, là, parce que
ouais.
ça veut absolument rien dire.
C'est ça.
C'est quelque chose qu'on a inventé un petit peu pour faire une suite au premier film. Là. Je sais pas.
Même on l'a poussé pour celle-là.
Ouais, ça a été assez vraiment ouais. poussé. Là. Ouais, dans ouais. le premier, c'était naturel, mais là,
ouais.
c'est comme bon. Là. bon, ben, c'est ça. Fait que Harry Osborn, comme différence aussi, le gobelin vert, là, ben, gobelin, bouffon vert, pardon, en français, il n'y aura pas le masque classique non plus, puis il n'y aura pas son costume violet et vert, comme qu'il n'y avait pas non plus dans celui de Tobey Maguire. Puis, on va avoir plus une transformation génétique là, de Harry qui va ressembler plus à un gobelin que d'autres.
Ouais, c'est ça.
Après, ça a été injecté avec du venom d'araignée. En tout cas, je ne sais pas comment ça fait du sens. Peut-être que ça fait... En tout cas, bon. Dans les comics, bien sûr, Norman Osborn, c'est le bouffon vert original, puis c'est l'un des plus grands ennemis de Spider-Man. Mais là, dans le film, ben, il meurt à la première seconde.
Ouais.
bon. La mort de Gwen Stacy, parce que là, c'est ça. Le film, c'est le comic qui a le plus emprunté, c'est The Night Gwen Stacy Died. Là, je vous rassure, c'est pas le titre qui est inscrit sur le comic, là, parce que c'est un gros spoiler.
ouais.
C'est inscrit à la fin. Bon, il y a beaucoup de différences, notamment au niveau du coupable. Là, c'est Norman Osborn dans Amazing Spider-Man numéro 121 qui va tuer Gwen Stacy après avoir vu qu'il sait l'identité de Peter. Mais ça, il y a une grosse différence au niveau du lieu aussi. Dans le film, ça va se passer dans un genre de clocher. Une tour d'horloge, là. Alors que bon, le lieu classique de la mort de Gwen Stacy, c'est... voyons. C'est le... c'est le pont... C'est ça, c'est le pont de Brooklyn.
Pont, ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, c'est comme la tour du pont George Washington, mais elle a été dessinée par erreur comme celle de Brooklyn dans les comics, là. Mais, fait que je sais plus encore c'est laquelle, là, un des deux. Mais en tout cas, c'est sous le pont, puis aussi, tu sais... Quand on regarde le film la première fois, puis que les connaisseurs de comics ont vu Spider-Man apporter Gwen sur le top d'un pont. Mm-hmm. Harry venait juste de donner le gobelin. Tu sais, je pense que c'était comme juste un tease de comme Gwen, elle va mourir.
Ouais.
Puis comme le fait que ça soit finalement Electro, mais là, c'est comme, ah, OK, peut-être que non. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'était vraiment comme... ouais. On a joué avec les émotions des lecteurs de comics là, dans ce film-là. Bon. Fait que c'est ça. Tu sais, malgré la différence, bon, c'est la mort, elle se passe de façon aussi différente, là, mais dans les deux cas, elle tombe. Dans le cas des comics, c'est que Spider-Man va l'attraper avec une toile à la cheville qui va faire en sorte que ben, le rebond va craquer son cou. Là. Mmh. Mais on va apprendre éventuellement qu'elle était déjà morte en tombant à cause de la chute. Puis, parce que c'est quand même une grosse chute. Là. Puis, alors que dans ce cas-ci, dans ce film-ci, ben, c'est pas nécessairement mentionné, là, mais on comprend qu'elle est morte de sa chute. Là. Bon, pour Rhino aussi, il y a une bonne différence là, parce que dans les comics, il est introduit au niveau d'Amazing Spider-Man numéro 41. C'est un homme de main russe, combinaison, il y a comme une combinaison de rhinocéros greffée à sa peau. Puis c'est comme une grosse brute pas intelligente. Puis dans le film, là, ça va être un exosquelette là, technologique un peu plus Oscorp. Bon, mais
un
c'est
russe aussi, on le voit pas beaucoup là. En fait, c'est la scène d'ouverture du film où là, c'est attendez, je me ressortir son nom là. Alexei Sitsevich, qui là, on comprend, c'est ça qui se fait emprisonner, puis c'est vers la fin du film où là, il se fait libérer parce qu'il partage sa cellule avec Harry Osborn, il me semble. C'est ça, il se fait donner un peu ce suit là. Fait que c'est lui qui ouvre et qui ferme le film un petit peu, puis c'est la dernière scène. Plusieurs semaines, je crois, après que Spider-Man ait visiblement disparu, Rhino il investit les rues de New York et puis il essaie de tuer du monde, puis le Spider-Man revient et puis lui pète la tronche.
Ben, c'est ça. Exactement. Bon, ben, tu sais, il y a des choses qui expliquent ces différences-là parce que ce que je comprends, c'est que dans The Amazing Spider-Man, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est que tout vient d'Oscorp. Tout vient d'Oscorp, là, toute l'histoire. Spider-Man vient d'Oscorp, tout vient d'Oscorp pour donner comme un sens de réalisme à l'histoire, pour dire que c'est ultra technologique, puis tout vient de la technologie. On essaie d'y aller, de vraiment pousser là-dedans contre le plus classique des comics. Donc, ça, c'est ce qui apporte une bonne partie des différences. Là, on voulait vraiment que tout provienne de la même place. Puis, pour relier tout ensemble, puis il y a aussi une différence d'époque. Là. La plupart des comics desquels se sont inspirés, ils ont été faits dans les années 70. Là. Il y a une différence technologique majeure.
Dans le temps, Spider-Man, il fumait des clopes. Je sais pas comment ça marchait.
Non, mais c'est ça. Fait que, t'sais, le film se passe dans un New York plus contemporain, là, ce qui change le ton de tout ça. Mais c'est ça. Puis... Tout de suite, fun fact, tout de suite après la mort de Gwen, le comic après, c'est là que Norman Osborn meurt dans les comics. Fait que c'est tout de suite après, mais dans le fond, c'est Spider-Man veut se venger pour la première fois. Il veut tuer le bouffon vert, puis il est prêt à tuer pour la première fois, puis finalement, il n'est pas capable, tu sais, parce que c'est Spider-Man.
Ouais.
Puis finalement, Norman s'impale lui-même avec son glider à la fin en essayant d'attaquer Peter. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour des différences avec les comics. Je veux dire, ça a été quelque part basé sur des comics, mais il y a vraiment beaucoup de différences qui me fatiguent pour me dire, je ne savais pas quel comic lire, là, qu'est-ce qui allait être le plus évident. T'sais, j'avais l'impression de regarder, pas une adaptation, j'avais l'impression de regarder comme un univers parallèle, ce qui est le cas. Mais
d'une certaine façon, le meilleur bout du film, c'est-à-dire la mort de Gwen, ben c'est la seule qui vient vraiment d'un comics. on aurait dû plus se coller à des comics finalement que d'essayer de
faire n'importe quoi. Je suis d'accord de diverger des comics, mais il faut que les idées soient meilleures. Puis dans ce cas-ci, mais je pense pas qu'elles l'étaient.
Non.
Mais c'est ça, on a essayé de tout relier ensemble, de relier un peu, d'inclure les parents de Peter Parker là-dedans pour faire comme un genre de mystère, puis faire en sorte que tout vienne d'Oscorp, ce qui est un drôle de choix là, en soi, parce que si t'as un univers où est-ce que bon, t'as Spider-Man dans ton univers, ben tu peux bien accepter que...
Ouais, c'est ça. Il y a un personnage, on l'a pas mentionné, ben on l'a mentionné tantôt, là, mais Félicia, qui joue la, je sais pas, assistante, on va dire, de Harry chez Oscorp. Félicia qui est quel personnage?
C'est une référence à Felicia Hardy, qui est Black Cat. Black Cat qui n'a toujours pas été introduite dans le live action à ce jour. On peut connaître un peu plus des références au personnage si on va regarder la série qui vient de sortir, Spider-Noir. Mais sinon, Black Cat qui va être un love interest de Peter Parker et aussi une anti-héros. Ouais. Ben ouais, c'est
quasiment la Catwoman de,
ouais,
de Batman.
Ouais. C'est ça. Mais c'est un peu... elle va voler des choses, puis des fois pour le bien, des fois pour le mal. C'est jamais, on sait jamais vraiment qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais dans ce film-là, ben c'est Felicia, c'est un clin d'œil, puis ça ne va pas plus loin.
Non, effectivement. Ce qui est une bonne chose, finalement, parce que le film s'arrête. Ben, je veux dire, l'univers s'arrête pour The Amazing Spider-Man. Mais merci pour ce tour d'horizon-là. Donc, c'est ça, moyennement comic accurate, même presque pas du tout. Voilà, ben, parlons un petit peu du film. Je mentionnais là tantôt, ben, c'est ça, je pense que les studios se sont beaucoup immiscés là-dedans, dans essayer de... ajouter des personnages, bâtir. Et, ils croyaient tellement au produit qu'ils voulaient essayer de bâtir quelque chose de plus grand. Puis là, ouais, quand je faisais mes recherches, c'était pas trop clair s'ils voulaient faire, mettons, un Spider-Man 3 et un standalone film des Sinister Six, ou bien s'ils voulaient vraiment faire des Sinister Six dans le troisième volet de Spider-Man. C'est pas trop clair. Mais dans tous les cas, on comprend que là, on dirait que Sony veut essayer de capitaliser sur les droits qu'ils possèdent parce qu'ils voient le succès de Marvel de l'autre côté. Ils vont essayer de capitaliser puis essayer de faire leur propre univers de Spider-Man, ce qui va jamais... Ben, je dis jamais naître, c'est pas vrai, là, parce qu'on va avoir trois Venom, on va avoir Kraven, puis on va avoir Morbius, puis en tout cas,
ouais,
d'autres niaiseries de même, là, ils savent pas quoi faire avec leur licence, mais c'est ça, donc il y a clairement, on essaie, puis je sais pas si j'ai son nom encore, là, mais c'est un ancien producteur de Disney, justement, Avi Arad, c'est ça, Avi Arad, qui avait produit là, les premiers, qui était producteur de la plupart des Spider-Man, mais qui avait produit les X-Men, qui avait produit Blade aussi. Fait que c'est ça. Tout
as-tu travaillé dans la série animée de... Je sais pas laquelle.
Je sais pas, je pense pas, mais il avait travaillé sur The Incredible Hulk. Fait que c'est ça, il avait fait, je pense, les deux premiers films du MCU avant de quitter puis d'aller ailleurs que chez Marvel Entertainment. C'est ça, je pense qu'il s'est beaucoup immiscé dans le projet, ajouter des personnages, couper des scènes. Le film se voulait aussi plus violent à la base et puis on a voulu se rapprocher d'un rating PG-13. La transformation de Harry apparemment était plus intense que ça. On y voyait pousser des dents puis en tout cas faire des affaires pas propres. Déjà qu'il est laid puis un peu dégueulasse. C'est ça. Je suis content qu'on soit pas nécessairement allé de ce côté-là. Mais c'est ça, ça reste très... family friendly malgré tout, là, malgré que un des personnages, ben tu sais, la seule vraie surprise, ben honnêtement, ou le seul point fort, moi ce que je reproche aux comics souvent, c'est que tout le monde survit à tout, là, mais là pour une fois il y a quelqu'un qui meurt puis un vrai personnage, tu sais, un top 2 personnage,
ouais.
Là.
c'est un point positif,
ben je trouve que c'est un point positif parce que moi ce qui me fâche, c'est qu'il n'y a jamais aucun enjeu, tu sais, dans la première trilogie de Spider-Man, oui, mais l'oncle Ben, on sait qu'il est mort. S'il n'est pas mort dans la première demi-heure, c'est qu'ils ont déjà manqué le film. Là, je veux dire, ça, c'est le personnage qui est supposé mourir. Mary Jane, dans la première trilogie de Spider-Man, malgré que tous les vilains veulent s'attaquer à elle, je sais qu'elle va survivre à la fin. Puis, tu sais, sûrement qu'elle meurt d'un comic, mais je veux dire, au cinéma, on tue pas nos personnages au cinéma. T'sais, nomme-moi... ça a pris quoi? 20 films à Marvel avant de tuer un de leurs personnages, qui est Iron Man. Tony Stark, puis finalement il le ramène. Fait que, tu sais, c'est voilà, ça, il va être différent. Mais bon, fait que, tu sais, ça, moi, il n'y a pas d'enjeu dans les films. Puis là, ce que le film réussit bien, c'est cette relation-là qu'on root pour eux. Tu sais, moi, Andrew Garfield, je l'ai dit, je trouve qu'il fit le casting de Spider-Man. Puis on a vraiment baissé l'aspect comique du film que j'aimais pas beaucoup là, dans le premier Amazing Spider-Man. Puis Emma Stone, moi, c'est une des meilleures actrices en ce moment. Puis même à l'époque, je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup son travail. Puis leur relation est crédible en partie parce qu'ils sortaient ensemble dans la vraie vie aussi. Mais
toutes les photos qu'ils mettaient de eux, c'était des vraies photos de leur couple.
Ben, tu sais, c'est ça. Ben, c'est pas le premier couple formé non plus. Ils sont tous formés. Ouais, c'est ça, Tom Holland puis Zendaya. Mais bref.
Tobey Maguire aussi.
Avec Kristen Dunst, je sais pas.
C'est le Spider-Man Curse.
Mais puis avec, en tout cas. Mais les autres non plus sont plus ensemble. Mais bref, Emma Stone, moi, je l'aime beaucoup comme actrice. Le rôle dans le premier film, je ne l'aimais pas beaucoup. Là, ici, il y a un peu plus de substance. Tu sens que là, c'est une vraie femme indépendante, mettons. Mais c'est ça. Cette relation amoureuse-là est cool. Puis de savoir, tu sais, on sait déjà qu'elle va être un peu tragique juste parce qu'ils se séparent puis elle s'en va anyway. Mais là, que finalement, elle s'en aille pas parce qu'elle est morte. Tu sais, je trouve que c'est ça. Ça met un vrai enjeu. Puis ça aurait pu créer quelque chose d'intéressant pour le troisième. Que ce soit à cause que. Parce que dans le film, on était supposé introduire Mary Jane aussi. Finalement, on avait gardé ça. On avait tourné des scènes, mais on les a jamais sortis. C'est Shailene Woodley qui avait été castée là-dedans. Elle a joué dans d'autres teens. City of Bone, ou en tout cas, je sais plus trop quoi, là, des teenage, des young adult romans qui ont été adaptés par la suite. Mais bref, c'est ça. Je sentais qu'il pouvait avoir une vraie continuité. Tu sais, là, on suit les événements du premier, mais il se passe pas grand. Tu sais, on fait pas beaucoup référence au premier film tant que ça. Puis là, dans le troisième, il y avait peut-être le potentiel pour quelque chose de cool qu'on ne verra jamais. Mais bref, la partie réussie, c'est vraiment tout l'aspect de cette relation-là. Tout ce que j'ai haï, ben c'est ce qui concerne Harry Osborn. Là. On en a parlé.
Autant on peut croire à la relation Peter et Gwen dans ce film-là, autant on ne croit pas à l'amitié Peter et Harry. On sait qu'ils sont pas amis. Là. Ça se voit.
Ah, c'est fâchant. C'est fâchant. T'sais, je sais pas pourquoi ils ont pris un acteur qui... Tu sais, il pourra jamais jouer un rôle de gentil, cet acteur-là. Là. T'sais, tu le regardes puis tu le sais qu'il est méchant. Peu importe ce qu'il fait. Fait que c'est comme, là, déjà qu'on nous l'introduit sans préavis, là, comme ça, il fait juste apparaître à un moment donné. Puis là, leur première rencontre, est-tu poche, là, un peu, comme dans un hall d'entrée. Puis là, ça fait 8 ans qu'on s'est pas vu. Puis là, c'est comme... De quoi 8 ans qu'on s'est pas vu là? Tu peux pas l'avoir perdu de vue. Comment ça vous étiez amis à la first place là, t'sais? Puis c'est ça, l'acteur, il fait aucune chose likable. T'sais, il arrive, son père meurt, puis comme là il devient comme le pire jeune milliardaire au monde. Il arrive sur le board, puis il veut juste renvoyer tout le monde, puis faire à sa tête. Tu sais, c'est ça, spoiled brat, là, c'est pas mal l'expression. Fait que il y a rien d'intéressant dans ce personnage-là. Fait que c'est sûr, pour un vilain, tu sais, un vilain réussi, selon moi, c'est un vilain que, c'est ça, tu peux un minimum t'identifier à lui, ou en tout cas comprendre ses motivations. Lui, c'est juste un milliardaire pas fin. C'est, fait que non, on peut rien croire. Puis même sa transformation aussi, je l'ai pas trouvé le fun, le gobelin. T'sais, autant, oui, il était peut-être dans la version de Sam Raimi, peut-être que le gobelin était un peu pas caricatural, mais t'sais, très... Je pense pas qu'il est si crédible que ça, là, avec son casque de moto weird. Là, en tout cas,
ouais.
C'est comme un drôle de costume qui look good. Je le trouve relativement menaçant, puis tout ça, mais... Tu sais, est-ce que ça se peut, je sais pas trop. Mais
dans les comics, le gobelin, le bouffon vert, il n'y a pas un costume qui se peut. Là.
Non, je sais, mais en tout cas, tu sais, là, ils ont essayé d'en faire un qui se peut, puis ça se peut pas plus.
C'est le bouffon vert, tu sais, pourquoi tu veux faire un peu comme... Je comprends pas, c'est quoi les...
Ouais, ben c'est ça, je sais comment il est dans les comics, mais tu sais, c'est ça, là, on a voulu en faire une version, mal formé, ouais, ça, je sais pas trop, là, modifié génétiquement, mais c'est ça, tout ce qui concerne le gobelin vert, j'ai pas aimé ça, puis j'ai pas aimé le traitement qu'on a fait d'Electro à cause de ça, parce qu'on veut nous pointer, tu sais, comme quoi Electro va être le vrai vilain, puis finalement, c'est pas Electro, ça va être j'arrête pas de l'appeler le gobelin vert, là, mais excusez-moi, mais en tout cas, ça va être le bouffon vert, finalement, puis là, Electro devient un sidekick, pas le fun, alors que tu sais, oui, il était un peu pathétique là, le personnage de Max Dillon, mais j'avais quand même envie de voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer avec ce personnage-là, tu sais. Mais non, finalement, on nous ramène le personnage qu'on connaît déjà, puis tu sais, c'est ça. En tout cas, j'ai été assez déçu, mais par contre, je pense que le film est un peu plate, mais ultimement, il vieillit quand même bien. Là, je pense au niveau des effets spéciaux. Il y a certaines scènes d'action qui étaient... Ben, c'est ça, c'est très... Il y en a des réussis, il y en a des pas réussis.
J'ai un problème avec les couleurs dans ce film-là. Je sais pas c'est quoi le problème. Je sais pas si c'était ma télé. Là,
mais ouais, c'est ça.
J'ai un problème avec les couleurs dans ce film-là. Je les trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bleus. Là. À chaque fois qu'on est dans le jour, là, mais la nuit, là, c'est beau. Là, ça va. Mais tu sais, pour vrai, j'ai eu de la misère avec les couleurs. Comparativement au film de Sam Raimi qui était tout jaune. Là, celui-là en particulier, je le trouve extrêmement bleu. Fait que...
C'est pour rehausser Electro. Je sais pas, la palette de couleurs d'Electro.
Non, ben pour vrai, mais peut-être. Là.
J'ai lu, c'est un fait intéressant là, que je voyais. Tu sais, il y a beaucoup de... Là, en 2014, là, avec ce film-là, il y a beaucoup de franchises ou de films à cette époque-là, un petit peu avant aussi, tu sais, qui commençaient, mettons, le premier film est sur pellicule, puis après ça, il transfère au digital, parce que c'est plus simple, puis hein, ça coûte moins cher, puis tout ça. Lui, c'est l'inverse, en fait. Le deuxième film est sur pellicule, alors que le premier est sur digital, parce qu'on n'aimait pas le look du premier.
Non, mais je suis d'accord, puis ça donne un bon look, mais il y a quand même un gros problème de... En fait, la raison pourquoi qu'on l'a mis bleu, c'est pour que Spider-Man ressorte. Parce qu'il est rouge. Mais pourquoi? Il y a d'autres façons de le faire ressortir. Là. On aurait pu prendre un costume un peu plus flashy qui ressortait plus, mais non, on a joué avec les couleurs, puis je trouve que ça paraît beaucoup. C'est aussi le premier film qui a été tourné 100% à New York. Le premier film de Spider-Man qui a été entièrement tourné à New York. Puis ça le paraît. Ça paraît que c'est tourné à New York. Tout le monde est tout pogné.
Ouais, c'est ça. Pas beaucoup de place sur le trottoir. Mais non, effectivement, tu sais, puis je pense que ça n'a jamais été ce qui était problématique non plus, là, tu sais, sur la représentation de la ville et tout ça. Mais tu sais, moi, le look, la teinte bleutée ne m'a pas nécessairement choqué.
Ah, moi, ça m'a très choqué.
J'essaierai de porter attention quand je vais le revoir dans 15 ans. Mais c'est ça. Donc... Mais sinon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais,
En fait, ça, j'ai une teinte bleue, mais en fait, c'est l'absence de teinte jaune parce que, juste pour clore la parenthèse là-dessus, là, c'est une absence de teinte jaune qui est classique de tous les films de super-héros. En général, on évoque une teinte un petit peu jaune-orange ou... Mais là, c'est juste l'absence de teinte jaune. C'est pas nécessairement 100% bleu. Bon, ce que j'en ai pensé, c'est que je l'ai bien aimé, mais... Pas tant que ça. C'est très contradictoire comme statement. Mais ce que j'ai aimé, je vais commencer avec ce que j'ai aimé. Le combat final avec Electro et Spider-Man, je le trouvais super intéressant. On était bien partis jusqu'à temps que ça dure 4 minutes. Là.
Ouais.
Mais pour vrai, j'aime beaucoup ce combat-là. J'aime beaucoup cette scène-là aussi de nuit. Je trouve que c'est bien fait.
Un combat qui se passe là, dans une espèce de... comme un poste, une centrale.
Une centrale électrique, une grille électrique. Puis, tu sais, il y a même des...
En plein centre-ville.
Il y a même des notes de musique, là, à un moment donné, il fait des notes de musique en changeant de... Tu sais, pour vrai, j'ai bien aimé ce combat-là.
Il fait des notes de musique, tu sais quelle chanson il faisait? Non, t'as pas remarqué?
Non, oui, mais je m'en rappelle plus.
OK, ils font la chanson de Spider-Man. Oh, oui, c'est bon. Du thème
je me rappelle plus c'était quoi, c'était lequel. Là. Bref, mais... Tu sais, j'ai bien aimé ça, mais j'attendais juste ça tout le long du film. Mm-hmm. Fait que j'ai bien aimé regarder le film. J'aimais le suit, mais à part ça... Je l'ai pas haï, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien, puis j'ai l'impression qu'il se passe tout en même temps aussi. Puis que ce qui se passe ne fait pas grand sens, puis c'est un peu... T'sais, ça veut pas dire grand-chose. Jusqu'à la mort de Gwen, tu sais, ça veut pas dire grand-chose. Puis aussi, quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'était pas nécessairement à la deuxième réécoute, je savais, mais tu sais, quand j'ai vu le film la première fois, je savais que Gwen allait mourir parce que je lisais même pas comme entièrement beaucoup de comics, mais je savais dans l'univers des comics qu'elle était morte et qu'elle mourrait. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, mais je sais à la seconde qu'elle fait son speech de « il y a personne qui décide pour moi ».
Ouais.
Tu sais, je sais à la seconde qui a fait son speech, que c'est là qu'elle meurt. Fait que, je sais pas. Je l'ai trouvé exagéré, mettons.
OK.
C'est ça. Mais c'est une petite affaire, là, mais sinon, comme je sais pas. J'ai de la misère à le placer, ce film-là. J'ai de la misère à vraiment le détester parce que, pour vrai, il fait des bonnes choses. Il fait des choses correctement, mais je peux pas dire que je l'aime non plus.
Ben, c'est ça, c'est juste qu'il est pas mémorable. Il y a rien, il y a aucune scène mémorable, sauf peut-être cette mort-là de Gwen Stacy. Tu sais, qui était pas mal le seul souvenir. En fait, je gardais deux souvenirs de ce film-là, la scène de la mort, puis la scène où Rhino revient, parce que je le trouve tellement grotesque, ce personnage-là, puis j'aimais pas le suit non plus de Rhino, là, en espèce de... Ben, ce soit tech, là.
Un exosuit.
Ouais, c'est ça. Fait que j'avais pas beaucoup aimé ça, finalement. C'est ce qui se passe dans les 10 dernières minutes. Mais c'est ça, je gardais à peu près aucun souvenir de ce film-là, mais j'ai quand même été relativement charmé par cette histoire-là, même si, oui, il y a du stalkage. Tu sais, je veux dire, cette relation-là entre les deux, tu sais, qui se sont laissés, mais ils veulent pas se laisser nécessairement, mais ils ont pas le choix.
Ouais.
Fait que, tu sais,
j'avais l'impression que c'était exploré dans le premier film aussi. J'avais l'impression que, comme la fin du premier film, j'aurais aimé ça que ça
clôt
ce problème-là, mais... Je sais que sa mort est un peu en lien avec ça aussi.
Ouais,
là.
Ouais,
fait que ça peut pas nécessairement.
Mais c'est pour ça que le troisième, puis finalement, on a transposé ce qui aurait été intéressant, je pense, dans un troisième film, dans No Way Home. C'est-à-dire toute cette question du remords-là, puis de se sentir coupable de nos actions, des conséquences de nos choix et tout ça. On le faisait aussi dans la trilogie de Sam Raimi, mais tu sais, il y a une grosse scène à la fin de No Way Home où les trois Spider-Man se jasent de leur... filles qui ont perdu, en tout cas des conséquences whatever, puis tu sais, Andrew Garfield là, son speech sur ben, c'est ça, ses remords qu'il a d'avoir tué Gwen, fait que tu sais, je trouve que probablement que tout ça aurait été dans un troisième film, puis finalement qu'il ne verra jamais le jour, mais c'est ce que je trouve le plus intéressant assurément dans le film, c'est d'avoir des vraies conséquences là, à des choix, fait que mais c'est ça. Vilain sous-exploité, c'est pour ça qu'on l'a ramené probablement dans No Way Home aussi.
Oui, sous une meilleure version aussi de lui-même. Là. Je crois qu'ils se sont rattrapés pour ça, mais ça a pris du temps.
Puis d'ailleurs, ben, j'ai quelques minutes juste pour parler de pourquoi il n'y a pas eu de troisième film. Parce que oui, au-delà du piètre succès box-office, c'est qu'on a retardé un peu la production du film parce qu'on voulait que le troisième film soit une coproduction entre Marvel et Sony, ce qui n'a pas eu lieu parce que Marvel voulait pas. Je peux leur comprendre, Sony, là, il était comme deux semi-miss, là, si on veut. Fait que puis finalement, cette coproduction-là va se passer, mais plus avec Marvel que les rênes du projet, puis qui reprend la licence un peu de Spider-Man. Mais il y a eu ça, il y a eu le réalisateur qui a pas beaucoup aimé, donc... son traitement, même il y a Andrew Garfield qui était venu à sa défense dans les tournées médiatiques qu'ils font, juste pour dire qu'effectivement, que c'était pas le film qu'il avait sign-up pour, puis que ça lui donnait pas vraiment envie de faire un troisième si ça allait se passer encore comme ça. Puis de l'autre côté, je pense que les producteurs aussi étaient moins... intéressé à retravailler avec Andrew Garfield. Fait que là, si tu perds ton Spider-Man, t'es tout simplement scrappé ton univers. Là. Je pense pas que c'est lui que tu dois recast dans ton univers. Là. Fait que. Puis là, tu sais, les délais, ça se prolongeait. Tu sais, il visait un troisième film, je pense, en 2018. Fait que ça aurait été quand même 4 ans après. Puis finalement, c'est ça, en 2016, ils ont décidé de faire. Ah non, tu sais, ça se passera pas. Andrew Garfield a droppé le projet. Puis c'est là que Tom Holland est arrivé dans le décor, dans Captain America. Là, non pas dans le nouveau film. Je pense Homecoming, premier film de Marvel, je pense que c'est 2019. Fait que quelque chose comme peut-être. Ça. Fait que un peu plus tard. Ah non, c'est peut-être 2019, je pense que c'est... En tout cas, je ne sais plus trop. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est vraiment au niveau de Sony qui ont trop attendu puis qui finalement ont perdu la confiance des créateurs puis ils ont juste fait « OK, bon, on va tirer à
plug. On va recommencer.
On va faire Venom. On va se reprendre avec Venom. » Puis ça a donné ce que ça a donné. Fait que voilà pour la petite histoire. Donc, ça résume pas mal nos appréciations. Au retour de la pause, on va te donner les 6 popcorn. Pas les donner les 6, mais en tout cas, on va se questionner à savoir combien de popcorn on y donne. Ce sera tout de suite après cette pause. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini et c'est le moment que vous attendiez tous. C'est l'octroi donc de nos 6 popcorn. On commence avec le premier popcorn. David, quel est-il?
Le popcorn de l'espace, c'est l'importance du film avec le MCU. bon.
Moi, j'y donnerais une demi.
Oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pourquoi?
Ben, tout simplement à cause de ce speech-là qui va être... de cette mort-là qui va avoir son importance, mais tu sais, une importance très limitée là, dans une franchise du MCU. Là, tu sais, il n'est pas important pour tout le MCU, mais pour un de ses personnages principaux, là, surtout à partir de la phrase 3, là, Spider-Man, c'est pas mal un des meilleurs super-héros, je pense, là, de Marvel, là, ceux qui restent. Ça m'a quand même surpris dans No Way Home qu'il y ait autant de place. Je pensais vraiment que ça allait être deux caméos, là, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Puis finalement, tu sais, l'histoire est vraiment quand même bien intégrée à tout ça. Et cette mort-là, donc, de Gwen occupe une place importante dans la fin de cette No Way Home. Fait que un demi-popcorn, selon moi, mais ce serait plus un quart de popcorn. Là. Mais
ouais, non,
on va y donner.
Non,
on va arrondir à la hausse.
Parfait. Pour le popcorn de la réalité, donc le réalisme du récit, le premier, on y avait donné une demi.
Ouais.
Celle-là, j'ai un petit peu plus de
misère.
Ouais,
c'est ça, on dirait que j'ai de la misère aussi. Là. Moi, toute la question de. Tu sais, je sais pas comment ça marche, là, se donner du sang dans la vie, là, mais.
Pas comme ça.
Mais semble. Tu sais, je sais pas si. Si je me transfère le sang de quelqu'un qui a guéri d'une maladie, je sais pas si j'ai ses anticorps ou si je fais juste coaguler. Puis. Je sais
pas. Peut-être le même groupe sanguin.
Ouais, c'est ça, pour commencer. Fait que non, tu sais, tout ça, puis. Tu sais, il y a des moments réalistes, là, mais tu sais, la transformation en bouffon vert de Harry et...
On a essayé d'être réaliste, mais c'est pas
réussi. On a essayé d'être réaliste dans notre incrédibilité, on va dire. Là. On est comme, gars, on sait que c'est des cartoons, là, mais comme on va essayer quand même de faire de quoi de réaliste, mais non, ça... En tout cas, moi, je ne donnerais pas.
Non, moi non plus. Popcorn du pouvoir, la qualité des effets spéciaux, des scènes d'action. Cela, comme... J'ai un gros point positif, la dernière scène d'action avec Electro.
Ouais.
Aussi la mort de Gwen aussi. Je trouve qu'il y a eu des bons effets spéciaux, du bon...
Ouais.
Mais j'ai un petit problème en dehors des scènes d'action avec le bleu.
Ouais. Mais tu sais, tout est beau et bien fait, mais tout est un peu plate. C'est ça l'affaire. Il y a d'autres scènes d'action avec Electro, il y en a à Times Square.
Oui, mais c'est ça, Times Square. Mais le ralenti où est-ce qu'il y a un web shooter, ça, j'ai trouvé ça intéressant.
Oui, effectivement.
J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça intelligent. Mais là, est-ce que c'est assez pour lui donner un popcorn complet? Je sais pas.
Non, je pense pas.
Mais t'sais, je lui donnerais peut-être une demi.
Ouais, on va lui donner une demi. Je me sens généreux.
Premier, on n'avait pas eu.
Il n'y avait pas de scène d'action. Il y en avait une à la fin.
C'est ça.
Avec la grue, puis même celle-là, je ne l'aimais pas. C'est comme, OK, on va tout aligner les grues de New York pour faire du web. Non. Mais ouais, fait que une demi.
Parfait. Bon. Le popcorn de l'âme, le respect du matériel source, mais moi, je donnerais un gros zéro là-dessus parce que, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais ouais, il y a trop de différence. Là.
On salue l'effort pour Gwen Stacy, mais pour tout le reste, non.
Bon, on salue l'effort, mais...
Tu sais, c'est comme, t'as tellement de storyline que tu peux adapter, puis tu décides de faire... Non, on va le faire comme
mais,
on pense.
Mais tant qu'à faire en sorte que c'est le bouffon vert qui tue Gwen Stacy, concentre ton film sur le bouffon vert.
Ouais, c'est ça.
On dirait qu'ils n'ont pas voulu faire un Spider-Man 1, ce qui est logique, mais comme... Fait, genre, je comprends pas. Tu sais, je comprends pas comment ça a été fait. Bref. Popcorn de l'esprit, est-ce qu'on a eu du fun à regarder ce film-là?
Limité.
J'ai eu plus de fun que je pensais j'en avoir. Ouais. L'autre,
il passait vite pour un film de 2h30.
Le premier, c'est il était pire que ce que je me rappelais. Celui-là, il était moins pire que ce que je me rappelais. Quand même pas bon.
Les deux sur Letterboxd, je leur ai mis la même note. Fait que... ultimement, j'aurais de la misère à dire lequel j'ai préféré parce que les deux, finalement.
Moi, j'ai préféré le deuxième. Mais ouais. Je sais que c'est un hot take parce que généralement, les gens ont préféré le premier. Là, mais
ouais.
Pour vrai, j'ai préféré un petit peu plus le deuxième. Mais comme une coche au-dessus.
Ouais, il est moins. Il est plus dark un peu. T'sais, le premier, il est vraiment con. Là. Je me souviens des jokes que j'étais pas capable de m'emmener. Là. C'est comme chaque phrase ou presque.
Mais j'aimais quand même. C'est quand même Spider-Man aussi. C'est quand même. T'sais.
Ouais, mais c'était pas des bonnes jokes de Spider-Man. Non. T'as demandé les meilleurs. Mais on peut lui donner une demi.
Une demi là-dessus. OK, parfait. Puis le popcorn du temps, est-ce que ce film-là va rester intemporel? Je pense
non.
pas. justement, il n'y en a pas eu d'autres. Pour une raison.
Ouais, c'est ça.
Fait que ça fait notre récolte de 3 demi-popcorn, ce qui est plus que les 2 demi qu'on y avait donné. Et fun fact.
On avait donné le premier, ouais.
qu'on avait donné au premier. Ouais, puis fun fact, on n'a pas donné les demi à même place, pas en tout.
Ah ouais, bon. Ben, c'est ça. C'est, ben, honnêtement, c'était un peu le feeling que j'avais. C'était comme, ils ont patché ce que j'aimais pas dans le premier, puis ils ont rajouté plein d'autres défauts. Fait que c'est comme, si tu mets les deux films ensemble, il y a sûrement un bon film en quelque part. Mais là...
C'est vraiment comme, ils sont interlacés.
Ben,
faudrait mixer ça. Les deux ensemble.
Ouais, la trilogie, peut-être qu'elle se serait méritée 6 demi. On sait pas. Mais pas un complet. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui clôt notre deuxième franchise de Spider-Man. Il nous en reste une troisième, la meilleure. Ben non, peut-être pas la meilleure. La plus, la
genre
plus
de la constante.
Ouais, c'est ça, moi aussi. Hein. Ça fait longtemps, Homecoming, je ne l'ai pas vu. Mais bref, c'est ce qui clôt cet épisode.
La plus audacieuse, on pourrait dire. La plus audacieuse. Celle du MCU, là, c'est la...
Audacieuse, hein?
Ouais, oui, c'est la plus audacieuse des Spider-Man. Ben, parce qu'on... T'sais... On ne gêne pas d'embrasser le côté MCU de l'univers, tout en comme gardant un Spider-Man somewhat plus en lien avec les comics que jamais. On a vraiment le beurre et l'argent du beurre là, de ces côtés-là. On a comme le côté MCU qui est déjà installé, qui est déjà l'univers qui est déjà énorme. Puis on a Spider-Man qui arrive... dans tout ça, dans cet univers-là qui est déjà parti. Puis, somme toute, le personnage de Tom Holland, je trouve que c'est le plus adapté au comic, là, parmi les trois. Là.
Homecoming, c'était pas mal un de mes préférés aussi, là, qui est le premier. T'sais, j'ai hâte de revoir. Le 2, je me souviens que je l'avais pas aimé. Fait que j'ai hâte de voir si je vais l'aimer finalement. T'sais, Far From Home.
Mais c'est ça. Il y avait le côté technologique que j'aimais un peu moins de Tom Holland. Là. Mettons que je trouve qu'il y a eu.
Ils l'ont collé à Tony Stark pas mal.
C'est ça. Ils ont eu tout cru d'embauche dès le premier. Mais là, on va avoir Ben Lodé qui arrive avec, je l'espère, un Peter Parker un peu plus misérable. Là. Je sais pas pourquoi on aime ça, mais je crois que les fans de Spider-Man aiment ça quand Spider-Man n'est pas content, puis misérable. Ouais. Bref, ça sera ça.
On va découvrir ça éventuellement. Mais notre prochain épisode, lui, va se concentrer plutôt... On continue notre pas de côté du MCU et on s'en va explorer X-Men Days of Future Past, qui est un de mes films de super-héros préférés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu.
La dernière fois que je l'ai vu, je me rappelle bien, c'était au cinéma.
Ah ouais? Ok.
Donc, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Et c'est la seule fois que je l'ai vu. J'ai un bon souvenir.
Ben, c'est sûr, si tu n'avais pas vu les autres X-Men.
Mais j'avais pas compris grand-chose. Mais c'est ça, mais j'étais jeune, mais j'avais pas compris grand-chose. J'avais suivi mon frère qui y allait. Là.
Ouais.
Mais pour vrai, j'en ai quand même un bon souvenir. Fait que je m'attends que maintenant que j'écoutais les autres, que ça se passe quand même assez bien.
Ouais.
Mais les seuls commentaires que je vois sur Internet, c'est que Wolverine n'a pas d'affaire là-dedans.
Ouais, bah, ben. C'est parce que...
Mais bon, je suis en train de lire les comics aussi à ce sujet-là. Puis ben, ça part bien.
C'est ça. Ben, j'ai hâte de le revoir parce que ça, j'en garde des super bons souvenirs. Puis j'aime ça, moi, les films un peu comme Back to the Future 2 où ils vont rejouer des scènes des autres films puis les modifier un petit peu. T'sais, même Endgame va le faire aussi là, avec une scène de Winter Soldier. Fait que, bref, j'aime ça quand on va... Je suis pas un grand fan des voyages dans le temps, généralement, parce qu'il y a toujours des problèmes, des erreurs de continuité, des affaires de main. Mais en tout cas, t'sais, j'ai hâte de le revoir pour voir à quel point il a bien ou pas bien vieilli. D'ailleurs, il a été tourné presque à 100% à Montréal. On voit même l'hôtel de ville de Montréal là, dedans. Fait que je te dirai la scène. Ça avait fait jaser pas mal en 2014 à l'époque. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode de The Amazing Spider-Man. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Popcorn de l'Infini. Salut!